l'enceinte vous allez suivre est une rediffusion.
Autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
Pourquoi ça nous touche?
Charlie Dupiau.
Bonjour, ravie de vous retrouver avec Apolline Verlon-Raison à la réalisation pour nous interroger aujourd'hui sur la fatigue. Abattement, lassitude, usure, surmenage, de quoi la fatigue est-elle le nom? Elle qui n'a de cesse de bousculer les frontières entre le psychique et le physique. Est-ce un état, une émotion, un signal d'alarme ou autre chose encore? La fatigue est pourtant longtemps restée un non-sujet pour la science, trop banal pour mériter qu'on s'y intéresse. Cela n'a pas découragé notre invité, Philippe Zaviedja. Attaché à questionner ce qui vient de soi, il nous livre un très dense dictionnaire de la fatigue, publié aux éditions Drose, dans lequel il convoque les sciences humaines et sociales dans leur ensemble pour penser et repenser nos fatigues autour de la question « Pourquoi tant de fatigue ?» Bienvenue. Bonjour Philippe Zaviedja.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour partager ce que les sciences humaines et sociales ont à nous dire de la fatigue. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à MinParisTech, au Centre de recherche sur les risques et les crises, et à l'Université de Sherbrooke, au sein de l'équipe Organisation en Santé. Mais après tout, pourquoi avez-vous eu envie de vous intéresser à la fatigue?
Moi, je viens de l'univers de la fatigue au travail. J'ai un peu publié sur le burn-out. Et j'ai constaté au cours de mes lectures non professionnelles certaines similitudes entre ce qu'on pouvait dire aujourd'hui du burn-out et ce qu'on pouvait dire il y a une centaine d'années sur la neurasthénie, avec des discours qui sont très proches. À l'aveugle, on pourrait parfaitement confondre et prendre les explications de l'une pour les explications de l'autre. Et du coup, ça m'a interpellé. Qu'est-ce qui sert de point commun, de lien ou de facteurs de différenciation entre les différentes formes de fatigue à travers les peuples et les siècles?
La neurasthénie, qui était une forme de fatigue, de mélancolie très particulière?
Oui, c'était une forme de fatigue, on ne va pas aller jusqu'à la mélancolie, mais de fatigue qui a été mise en évidence à la fin du 19e siècle aux États-Unis, à New York, et puis qui a passé de l'Atlantique en se dévoyant un petit peu. Elle a pris une tournure très particulière, mais je crois qu'on en reparlera tout à l'heure.
On en reparlera. Quelle histoire pour la fatigue, expérience du quotidien, s'il en est. L'historien médiéviste Michel Pastoureau ne se souvient pas être tombé sur ce terme dans les écrits du Moyen-Âge qu'il a pu consulter.
Aujourd'hui, tout peut être objet d'histoire et les historiens ont tendance à tout accaparer, mais à ma connaissance, aucun d'entre eux ne s'est encore intéressé à l'histoire de la fatigue. Alors est-ce que cette histoire, comme toute forme d'histoire, est d'abord sociale et culturelle, mais est-ce qu'elle peut être aussi physiologique, anatomique, individuelle? C'est le regard, au fond, qu'on porte sur la fatigue qui va faire qu'on est fatigué ou non. Le ressenti par chaque individu est plus difficile à cerner quand on est historien ou quand on est sociologue. Fatigué, ça implique une dimension qui n'est pas seulement physiologique, qui a quelque chose d'aussi de moral. Or, la morale, ça change énormément selon les sociétés et selon les époques. Je suis en train de me demander quelle est l'étymologie du mot fatigue. Et moi qui suis latiniste, tout d'un coup, je ne vois pas.
Philippe Zaviedja, est-ce que vous connaissez l'étymologie de ce mot, fatigue?
Mal, parce que je ne suis pas latiniste, moi. Je sais que le terme fatigare existe en latin, c'est un verbe, fatiguer, mais ça ne répond pas très profondément à votre question. Je pense qu'il faudrait aller voir du côté des racines indo-européennes de ce mot.
Et le sujet a, on l'a entendu, longtemps été négligé par les historiens, mais il a été étudié par les sciences à partir de la fin du 19e siècle. Pourquoi cet intérêt à ce moment-là, à la fin de la révolution industrielle?
Alors, on note effectivement un courant de recherche, essentiellement en France et en Italie, d'inspiration physiologiste à la fin du 19e, au début du 20e, principalement autour de questions d'optimalisation de la force de travail de l'humain, qu'on doit du coup relier avec l'industrialisation. On est à la fin de la révolution industrielle, en phase d'installation de machines pour travailler à la chaîne dans les usines. Et donc l'optimisation de cette ressource humaine pose beaucoup de questions. Pas forcément de façon très cynique, puisqu'on note chez les scientifiques en question le souci de préserver la ressource humaine, donc de lui ménager, et ce seront les conclusions qu'ils tireront toujours, de lui ménager des plages de repos pour optimiser son effort derrière. Alors évidemment, il y a des racines plus profondes qui sont la comparaison plus ou moins pernicieuse entre ces machines qui viennent, eux, des automates des Lumières, enfin, et d'un peu avant, on peut citer la réflexion sur le corps-machine de gens comme Descartes ou la Milletterie, donc on est au milieu du XVIIe siècle, qui influent sur l'histoire des sciences et qui conduisent progressivement à mettre en parallèle le fonctionnement du corps humain avec celui des machines, et donc à optimiser, comme on le fait avec les machines, le fonctionnement du corps humain.
Donc on s'intéresse à la fatigue, quand on se met à comparer l'homme avec la machine, on se rend compte que l'homme, contrairement à la machine, peut se fatiguer.
Oui, et quand on cherche à optimiser l'homme comme outil de production, et comme une machine.
Comme une machine. Et ensuite, comment cet intérêt a-t-il évolué par la suite, au cours du XXe siècle ?
Alors, ce courant physiologiste, il a grosso modo cours jusqu'à la Première Guerre mondiale. Ces quatre années d'horreur, j'ai envie de dire, auront une conséquence en termes épistémologiques, c'est qu'ils vont permettre à la psychologie et surtout à la psychanalyse de parfaire des outils conceptuels qu'elle avait commencé à développer, qui sont le trauma, donc le traumatisme psychique, et la névrose. Et du coup, on va avoir un glissement assez progressif d'un intérêt physique ou d'une conception physique de la fatigue vers une conception psychologique, avec une transition qui, entre le physique et le psychologique, qui sera à la fin du 19e, au début du 20e, une conception nerveuse de la fatigue.
Mmh. Qu'on verra pour la neurasthénie notamment.
Et ensuite, il y a un autre glissement qui s'opère pendant la Deuxième Guerre mondiale et surtout après-guerre, qui est grâce ou à cause de l'introduction et du développement de la cybernétique, qui est la discipline mère de l'informatique, la comparaison non plus du corps mais de l'esprit humain avec un type très particulier de machine qui sont les ordinateurs.
Mmh. Et qu'on a bien vu ensuite par la suite, et qui sont aussi des machines en fait finalement,
et qui sont des machines
avec lesquelles comparer l'homme.
Et qui sont des machines qui sont d'un autre côté calquées sur le fonctionnement du cerveau, l'esprit humain, et donc on a un effet de miroir et un cercle assez vicieux, me semble-t-il, qui se met en place, où le psychisme est comparé à l'ordinateur en termes de capacité de stockage de l'information, de capacité de traitement de l'information, évidemment en défaveur du cerveau.
Du cerveau humain. Et la fatigue a inspiré le monde des lettres. Votre dictionnaire d'ailleurs recèle de références littéraires, Madame de Bovary et son ennui chez Flaubert, le spleen de Baudelaire, Proust et sa fatigue créatrice. Qu'est-ce qui inspire, qu'est-ce qui intéresse autant les écrivains dans cette idée de fatigue ?
Alors, je pense d'abord qu'elle peut être assez spectaculaire. Donc, il y a une dimension que les psychosomaticiens qualifieraient d'hystérique dans la fatigue, avec des évanouissements, avec des langueurs, avec des faiblesses. Et surtout, elle permet de dire un certain nombre de conflits que le héros ou l'héroïne vit intérieurement, soit des conflits intrapsychiques, donc à l'intérieur de sa propre psychologie, soit des conflits avec la société qui l'environne. Madame Bovary, typiquement, Je pense aux héros et aux héroïnes de Théodore Fontane, l'auteur allemand, qui est à peu près dans la même veine. Proust, lui, est plutôt un auteur neurasthénique, mais on peut citer Thomas Mann, qui est le chantre de la neurasthénie.
La fatigue, en fait, nous apprend sur l'époque dans laquelle on vit. Autour de la question, pourquoi tant de fatigue ? Restez bien éveillé. Dominique A est fatigué. C'est le titre de sa chanson. Il nous offre un moment de répit. On en a bien besoin. À tout de suite.
Chaque fois quand elle m'appelle, je suis fatigué. J'ai pas envie d'aller la voir. J'ai pas envie de me lever. Je suis fatigué, trop fatigué.
Fatigué de Dominique A sur RFI. Existe-t-il une fatigue de riche et une fatigue de pauvre ? La fatigue est-elle influencée par des représentations sociales ? Serait-il impossible d'isoler cette fatigue du monde dans lequel elle évolue ? Je vous propose d'écouter l'éclairage sur cette question de Marc Loriol, sociologue et chercheur au CNRS. Il signe plusieurs articles de ce dictionnaire de la fatigue.
La fatigue est une dimension subjective de l'expérience humaine. La fatigue est mieux connue quand on a affaire à des personnes qui ont plus de capacité de s'exprimer, d'en faire des romans par exemple, ou de l'exprimer auprès d'un médecin, d'un psychiatre, d'un psychanalyste. Alors que la fatigue des personnes qui sont en bas de l'échelle sociale est moins connue, on en parle moins. Cette distinction relève d'une représentation sociale extrêmement répandue qui veut que le travail manuel soit essentiellement un travail physique du corps et que le travail intellectuel soit essentiellement un travail de la pensée. On méconnaît finalement toute la part de soi, d'inventivité, de créativité, d'angoisse, de peur, de l'accident par exemple, que les travailleurs manuels mettent dans leur activité. Donc il y a une représentation sociale qui veut que quand on est en bas de l'échelle, on serait essentiellement fatigué d'un point de vue physique, et quand on est en haut de l'échelle, on serait essentiellement fatigué d'un point de vue psychologique. La façon dont on parle de sa fatigue ou de son stress est révélateur de la façon dont on considère son appartenance à un groupe, un cadre, on associe ça au stress, un cadre qui ne serait pas stressé, c'est un peu louche parce qu'on demande s'il s'investit vraiment. Alors qu'un ouvrier, même s'il peut être très stressé parce qu'il est soumis à des cadences et à un travail complexe, va plutôt parler de sa fatigue physique parce que il n'associe pas son travail à des responsabilités. Alors, c'est des représentations sociales qui se sont effritées depuis une quinzaine d'années, mais qui restent globalement relativement fortes. Aujourd'hui encore, les médecins comprennent mieux finalement ce qu'expliquent les gens qui souffrent et qui appartiennent à des classes moyennes et supérieures plutôt que ce qu'expliquent les personnes qui sont issues de milieux plus modestes parce qu'elles n'ont pas les mêmes références, les mêmes expériences de travail, les mêmes expériences de conditions de vie difficiles. Et il y a tout un apprentissage que les médecins sont en train de faire mais qui n'est pas encore totalement abouti. Il y a en Australie une législation qui permet une reconnaissance du stress comme maladie professionnelle et les études sur le sujet montrent que ce sont les milieux sociaux plutôt favorisés qui voient leur stress reconnu, indemnisé comme maladie professionnelle plutôt que les milieux défavorisés. J'avais dit une fois, pour façon un peu provocante, le stress c'est les cadres qui s'en plaignent et c'est les ouvriers qui en meurent. Et globalement, statistiquement, c'est pas tout à fait faux.
Philippe Zaviedja, le stress, ce sont les cadres qui s'en plaignent, mais les ouvriers qui en meurent. Comment vous réagissez à ce que l'on vient d'entendre ?
Alors moi, je dois un très lourd tribut, mais volontiers payé à Marc Loriol, qui a des travaux extraordinaires sur la construction sociale de la fatigue. Oui, je partage totalement ce qu'il dit. Probablement parce que les ouvriers s'expriment davantage par leur corps, puisque c'est leur corps qui les engage dans leur travail. Si je suis cette représentation sociale dominante que Marc Loriol vient de décrire, les ouvriers engagent leur corps dans leur travail, et du coup, lorsque notamment le travail ne va pas, c'est peut-être aussi ce corps, outil de production, un excellent moyen de dire que ça ne va pas. Et donc, cette fatigue, quelle qu'en soit l'origine, elle peut être facilement communiquée, elle devient un instrument de revendication, une plainte, diraient les sociologues, mais aussi une revendication sociale lorsqu'elle passe par leur corps. Du coup, oui, les affections somatiques sont plus prégnantes. Et ce qu'on appelle en médecine du travail, les troubles musculo-squelettiques sont, dans ces catégories de travailleurs-ci, mieux mis en évidence.
Mais ce qu'explique aussi Marc Loriol hein, dans ses articles, c'est que pour les ouvriers, parler de sa fatigue personnelle et notamment de son stress peut être très mal vu dans un monde collectif, hein, perçu comme une façon de se mettre en avant par rapport aux autres, alors que voilà, le monde ouvrier est conçu comme collectif à la base.
Oui, avec un paradoxe quand même, c'est que si l'on continue à suivre ce fil rouge, puisque c'est le corps qu'on engage, dans le travail, c'est le corps qui va être fatigué le premier, ou qui doit être fatigué le premier. Or, nous sommes dans une civilisation où la fatigue physique est finalement est presque normale. J'ai envie de dire, les bonnes fatigues sont ces fatigues physiques plutôt que psychiques, avec une cause qui serait un effort plus ou moins soutenu. Ici, on voit bien que c'est le travail qui peut leur être attaché. Alors, le stress, oui, c'est vrai, les milieux ouvriers ne le mettent pas souvent en avant, ne savent pas le mettre en avant. Peut-être il s'exprime davantage dans la monotonie, dans la répétition ou dans la vacuité des tâches, ou dans ce qu'on estime être la vacuité des tâches, le manque d'intérêt des tâches, que dans les catégories les plus favorisées.
Et le stress aurait donc longtemps été l'apanage des riches, des classes favorisées. Et vous le dites dans votre dictionnaire, cela a aussi été le cas pour cette neurasthénie dont on parlait, cette nervosité américaine qui a été longtemps vue comme une maladie des businessmen aux États-Unis.
Oui, la neurasthénie, donc je rappelais tout à l'heure à la fin du 19e, hein, 1869 de mémoire décrite par Bird,
médecin
à New York, qui considère que c'est la nervosité américaine, nouvelle maladie qu'il propose à la communauté scientifique, apparue plutôt dans la bourgeoisie d'affaires masculine urbaine new-yorkaise, qui est une métropole qui est en pleine croissance exponentielle à cette époque-là, par opposition à la vieille société américaine, j'ai envie de dire aristocratique, un reliquat de la société anglaise, qui est sa société mère, qui est en train de passer la main en termes de pouvoir dans la société à cette bourgeoisie d'affaires.
Une maladie donc associée au rythme effréné imposé par le nouveau mode de vie américain. Fatiguer la fatigue comme on fatiguerait une salade, c'est à cette expérience que vous nous invitez dans votre dictionnaire de la fatigue, Philippe-Xavier Dja, autour de la question « Pourquoi tant de fatigue ?» Tout de suite, l'éloge de la fatigue, un sketch signé Robert Lamoureux.
Quand j'ai fini mon numéro, c'est pas très fatigant, il faut être juste, mais enfin quand même, il fait chaud. Et puis, quand j'ai fini mon numéro, quand je sors du théâtre le soir, j'ai toujours la figure un peu fatiguée. Si bien que les gens que je rencontre dans la rue à ce moment-là me disent toujours « t'as mauvaise mine ». Vous pouvez pas vous imaginer ce que ça peut être assommant de s'entendre dire à longueur d'année que j'ai mauvaise mine, ça finit par être déprimant. Enfin, tous ceux qui ont, comme moi, le visage un peu mince, pour pas dire mec, savent ce que c'est. Sans compter que les gens qui vous disent « t'as mauvaise mine » sont toujours des bons rondouillards et on a carrément envie de leur foutre des tartes. Alors, comme on n'a jamais mauvaise mine que parce qu'on est fatigué, et comme on n'est jamais fatigué que parce qu'on travaille, j'ai pensé que pour tous les gens qui travaillaient et qui étaient fatigués et qui partant avaient plus ou moins mauvaise mine, j'ai écrit un petit poème que je leur dédie, et puis que je me dédie un peu de temps en temps à moi-même, et que j'ai intitulé « L'éloge de la fatigue ». Vous me dites, monsieur, que j'ai mauvaise mine, qu'avec cette vie que je mène, je me ruine, que l'on ne gagne rien à trop se prodiguer. Vous me dites enfin que je suis fatigué. Oui, je suis fatigué, monsieur, mais je m'en flatte. J'ai tout de fatigué, le cœur, la voix, la rate. Je m'endors épuisé, je me réveille là, mais grâce à Dieu, monsieur, je ne m'en soucie pas. Et quand je m'en soucie, je me ridiculise. La fatigue, souvent, n'est qu'une vantardise. On n'est jamais aussi fatigué qu'on le croit. Et quand cela serait, n'en a-t-on pas le droit? Je ne vous parle pas des tristes lassitudes qu'on a lorsque le corps, harassé d'habitude, n'a plus pour se mouvoir que de pâles raisons. Lorsqu'on a fait de soi son unique horizon, lorsqu'on n'a rien à perdre, à vaincre ou à défendre. Cette fatigue-là est mauvaise à entendre. Elle fait le front lourd, l'œil morne, le dos rond, et vous donne l'aspect d'un vivant moribond. Mais se sentir plié sous le poids formidable des vies dont un beau jour on s'est fait responsable. Savoir qu'on a des joies ou des pleurs dans ses mains. Savoir qu'on est l'outil, qu'on est le lendemain. Savoir qu'on est le chef, savoir qu'on est la source. Aider une existence à continuer sa course. Et pour cela se battre à s'en user le cœur, cette fatigue-là, monsieur, c'est du bonheur. Et sûr qu'à chaque pas, à chaque assaut qu'on livre, on va aider un être à vivre ou à survivre. Et sûr qu'on est le port et la route et le guet. Où prendrait-on le droit d'être trop fatigué? Ceux qui font de leur vie une belle aventure marquent chaque victoire en creux sur leur figure. Et quand le malheur vient y mettre un creux de plus, parmi tant d'autres creux, il passe inaperçu. La fatigue, monsieur, c'est un prix toujours juste. C'est le prix d'une journée d'efforts et de lutte. C'est le prix d'un labour, d'un mur ou d'un exploit. Non pas le prix qu'on paie, mais celui qu'on reçoit. C'est le prix d'un travail, d'une journée remplie. Et c'est la preuve aussi qu'on vit avec la vie. Quand je rentre la nuit et que ma maison dort, j'écoute mes sommeils et là, je me sens fort, je me sens tout gonflé de mon humble souffrance et ma fatigue alors, c'est une récompense. Et vous me conseillez d'aller me reposer. Mais si j'acceptais là ce que vous proposez, si je m'abandonnais à votre douce intrigue, mais je mourrais, monsieur, tristement, de fatigue.
C'était l'éloge de la fatigue en sketch de Robert Lamoureux sur RFI. Autour de la question « Pourquoi tant de fatigue ?» avec notre invité Philippe-Xavier Dja, qui publie un dictionnaire de la fatigue. Et tout de suite, piste de réflexion avec le journaliste scientifique François Sabatier.
Je pense que, en fait, nous sommes en train de vivre une grande transition anthropologique et nous sommes en train de changer de mode de vie et nous allons vivre pendant longtemps sous de nouvelles conditions. Et ce qui est frappant, c'est l'accélération de la vie sociale. Ce que je veux dire par là, c'est que moi qui suis les sciences de restitution du passé et qui ai beaucoup observé le passé et jusqu'à tous ces stades et jusqu'à aujourd'hui, je me rends compte que quelque part la vie a davantage changé entre l'époque de ma naissance dans les années 60 et aujourd'hui que entre les Romains et les années 60, époque pendant laquelle mon grand-père, paysan du Languedoc, avait un cheval dans son garage. Et donc cette accélération sociale est un choc anthropologique inouï, majeur, nous le subissons tous. Et si nous avons aujourd'hui une fatigue nouvelle, une fatigue innovante, une fatigue d'un nouveau type, elle est liée à ça.
Philippe-Xavier Dja, comment vous réagissez à ce qu'on vient d'entendre? Cette accélération sociale est-elle réelle ou est-elle simplement ressentie? Qu'en pensez-vous?
Socialement, elle est réelle dans la mesure où elle est ressentie. Réponse de Normand, pardon. Mais ce que j'entends dans cette intervention, ce sont deux choses. D'abord, effectivement, la mise en avant de phénomènes d'accélération dont on a tendance à penser qu'ils nous sont spécifiques, mais qui ne le sont pas, puisque justement, c'était ces phénomènes d'accélération des rythmes qui étaient déjà mis en avant par Bird dans la neurasthénie dont on parlait tout à l'heure. Premier point. Deuxième point, peut-être plus prometteur en termes de réflexion, c'est cette impression que la fatigue survient quand on a l'impression d'un changement d'air, d'un changement d'époque. Pour reprendre la neurasthénie, elle est manifeste dans la littérature qu'on qualifie en Occident de fin de siècle. Et j'aime bien cette expression de fin de siècle parce qu'en fait, on la retrouve en permanence dès lors qu'une entité de fatigue prend le pas sur une autre. Alors, on peut considérer que à chaque changement d'époque, on a un double mouvement, un regard vers l'arrière qui serait un peu nostalgique, on est en train de quitter quelque chose, et un regard prospectif vers le futur qui est un peu angoissant parce qu'on ne sait pas où on va. Et ça peut être ça qui se cristallise dans des entités de fatigue, comme la neurasthénie à la fin du 19e, comme le burn-out aujourd'hui.
Justement, ce burn-out, on en parle avec l'idée que nous sommes face à une transformation du monde du travail. Le burn-out, vous l'avez beaucoup étudié, est apparu dans les années 70.
Alors, il n'est pas apparu parce qu'on n'a pas de datation de l'apparition de ce phénomène. On a commencé à en parler en 69 et puis de plus en plus au milieu des années 70. Effectivement, d'abord dans les milieux soignants et d'abord dans des milieux de psychologie sociale, donc pas de médecins, avant qu'il ne contamine, entre guillemets, toute la sphère du travail.
Il s'agit d'une crise dans sa propre relation avec le travail. Comment se manifeste le burn-out ?
Alors, classiquement, il est décrit comme un syndrome en trois dimensions. D'abord, l'épuisement émotionnel et physique. Ça, je pense pas besoin de s'apesantir sur cette conception-là. Deuxièmement, un ensemble de manifestations qui relèvent de la dépersonnalisation, c'est-à-dire de la déshumanisation, du retrait de l'investissement de toutes les activités humaines et de toutes les personnes humaines. Typiquement, je ne parle plus d'un patient, je parle d'une chambre ou d'une pathologie. La jambe cassée de la 428, et non pas Madame Dupont. Et puis troisième dimension, la baisse parfois totale du sentiment d'accomplissement personnel dans le travail.
Certains chercheurs l'ont appelé la maladie du bâton. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Eh bien, ça veut dire exactement ce que disait Marc Loriol tout à l'heure, à savoir que il est apparu dans des... Il a été mis en évidence d'abord dans des populations professionnelles où il était le plus criant, avant qu'on se rende compte qu'il était là, présent de façon plus cryptique
dans la société.
C'est ça, dans d'autres types de professions. Alors, typiquement, c'était la maladie du winner, quoi, du financier, du self-made man dans les années 70-80.
Et ça s'est étendu à d'autres sphères de la société. Depuis peu, on parle du bore-out également, l'ennui au travail, qui n'est pas un phénomène nouveau, mais qui a un nom, en tout cas, aujourd'hui.
Oui, au début du 20e, on parlait de tir au flanc, on parlait d'ennui au travail, hein, Relison, Feydeau, Courteline, etc., et Messieurs les ronds de cuir. Regardons tous ces clichés qui ont encore cours sur les fonctions publiques et les fonctionnaires. Effectivement, là, cette entité particulière de fatigue qui est l'ennui au travail interroge en vérité un tout petit peu la charge de travail et ici la sous-charge de travail dans une société quand même marquée par le chômage où être payé à ne rien faire ou à ne pas faire assez est politiquement très incorrect et donc n'est pas dicible. Et surtout, pour la majorité des gens, le sens du travail, perte de sens ou perte de perception d'un sens dans le travail qui peut aller jusqu'à la perception d'une absurdité de ce qu'on nous demande de faire. Et là, c'est le burn-out qui est apparu encore plus récemment.
Tout récemment, il y a quelques mois.
Qui ne sont que des formes d'ennui et qui nous interrogent, je le répète, sur le sens du travail.
Et qu'on tente aujourd'hui, en tout cas pour le burn-out, de reconnaître comme des maladies professionnelles.
Alors, contente, il y a des initiatives. Il y a des initiatives en France, hein, sachant que la France se distingue quand même par ce type d'initiative par rapport aux grandes économies mondiales qui ont opté pour une non-reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle. Oui, il y a des initiatives qui, pour les dernières, relèvent des propositions de M. Hamon depuis 2014, avec une certaine constance. Il a déposé plusieurs propositions de loi et s'est inscrit, je crois, dans son programme pour les présidentielles.
À chaque époque, son entité de fatigue. Autour de la question, pourquoi tant de fatigue ? La fatigue assombrit les traits, on pourrait l'associer au gris des visages, au teint pâle, au cerne noir. Mais quelle couleur fatigue véritablement ? Je vous propose d'écouter ce qu'a à en dire l'historien médiéviste des couleurs, Michel Pastoureau, dont décidément on a du mal à se passer dans cette émission.
En matière de couleurs, il y a des couleurs qui sont fatigantes et d'autres non, mais ça dépend des sociétés, ça dépend de qui regarde, une fois encore. Ce qui fatigue, c'est l'omniprésence de telle ou telle couleur. Et dans nos sociétés occidentales, les couleurs qui fatiguent le moins s'inscrivent dans la gamme des gris. On le voit très bien quand des urbanismes, pour redonner vie à un quartier très défavorisés, veulent l'égayer un peu en mettant des grands aplats de couleurs vives, du rouge, du jaune, du bleu, du vert. Ça a l'air très beau et ça va valoriser le quartier. Au bout de 3 jours ou une semaine, les habitants signent des pétitions pour qu'on revienne au blanc et au gris parce que ça devient insupportable. Les couleurs vives fatiguent plus que les autres.
Philippe Zaviedja, que vous évoque cet éclairage tout en couleurs ?
Alors, plusieurs choses. D'abord, le fait qu'on a effectivement, depuis plusieurs centaines d'années, associé la fatigue et la stimulation nerveuse. Alors ici, la stimulation nerveuse, elle passe par les yeux et par ces couleurs dites vives, qui seraient moins reposantes, mais du coup moins ennuyeuses, que les couleurs ternes. Premier point. Deuxième point, de façon plus scientifique cette fois, on sait qu'un certain nombre de gammes de couleurs stimulent le cerveau. C'est le cas du bleu, le bleu qui est émis par nos écrans d'ordinateur et qui explique que la consultation d'écran ou de téléphone portable en fin de journée et avant la nuit, en fait, diffère l'endormissement. Mmh. D'un autre côté, on sait aussi qu'un certain nombre de gammes de couleurs, et j'ai en tête une étude menée dans un groupe de retraite privée qui s'appelle Orpea, sur les malades Alzheimer, contribuent à certaines longueurs d'onde, à certaines chaleurs de couleur, à apaiser les patients Alzheimer et à moduler leurs troubles du comportement.
Mmh. Donc la fatigue a tout à voir avec les couleurs.
Oui.
Peut-on parler de bonne fatigue et de mauvaise fatigue ? On pratique souvent cette distinction dans la vie quotidienne, mais qu'en est-il véritablement ?
Alors j'ai envie de dire qu'on peut tracer un axe de différenciation entre la bonne et la mauvaise fatigue en disant que la bonne fatigue serait physique, avec une cause connue, un effort par exemple, intellectuel ou physique.
Qui peut être du sport par exemple.
Et une dimension de contrôle, voire de recherche. Effectivement, dans les activités physiques que nous pratiquons pour nous défouler. Donc tout ça, ce serait des bonnes fatigues physiques avec une cause à peu près identifiée. Et puis, par effet de contraste, toutes les mauvaises fatigues seraient plutôt psychiques et sans cause bien définie. Je veux dire par là que je peux être fatigué en étant en deuil. Je n'aurais pas nécessairement la perception d'une mauvaise fatigue. D'ailleurs, je n'appliquerai sans doute pas ce mot à mon état psychologique du moment. En revanche, si je suis fatigué psychologiquement sans savoir pourquoi, là, j'entrerai dans la mauvaise fatigue.
Et on considère peut-être aussi que la bonne fatigue est choisie, hein, dans l'idée de se sentir vivant. Et à contrario, la mauvaise fatigue serait plutôt subie. Hein, c'est celle qui ferait violence à l'individu.
Oui, c'est ce que j'appelais le contrôle tout à l'heure. On a tous, de façon plus ou moins marquée dans nos vies, besoin de tester les limites de notre corps et aller le titiller comme ça sur ses limites, en le poussant à bout. Ça a comme rançon la fatigue, ça marque aussi sa faillibilité, sauf qu'on peut s'arrêter en général, et donc on revient à une situation de repos.
Autour de la question, pourquoi tant de fatigue? Pourquoi sommes-nous si fatigués? Pourquoi a-t-on autant la flemme, comme disent les jeunes? La flemme, c'est tout de suite sur RFI, une chanson de 1995.
J'ai envie de tout arrêter, j'ai la flemme et je trouve pas mes clés. C'est la merde et je goûte la détresse, y'a rien sur ma fiche de paix. Ma mère stresse, elle déteste qu'on me fiche la paix. L'allégresse s'évapore, je suis qu'une chiffre molle. J'aime pas mes textes, j'élabore que des rimes bof. Mes gibbles se sentent trahis, une grosse flemme m'envahit. Je frivole, oui je vole, y'a trop de corps dans ma vie. Le Panama c'est chic et aseptisé, la porte sale est vide. Je ramasse pas mes slips, amnésique et à part ça j'effrite. J'aperçois les flics qui parlent mal à des petits.
La balade est triste,
banal pathétique, mais à balade des primes. Zap sur canal satellite, rapport anal chat et bite. Quand t'as mal ça t'évite. Oublier qu'il y a des filles qui avalent ça très vite. Souvent je m'imagine faire un tour en ville la nuit. Non mais c'est pas Jumanji, ici tout m'ennuie rapidement. La flemme, la flemme, la flemme.
Viens on sort.
J'ai la flemme, la flemme, la flemme.
Viens on dort.
Pas la peine, m'amène, la flemme.
Quoi encore?
Tout est gris au dehors, moi je préfère attendre la mort. J'ai la flemme, la flemme, la flemme.
Viens on sort.
J'ai la flemme, la flemme, la flemme.
Viens on dort.
Pas la peine, m'amène, la flemme.
Quoi encore?
Tout est gris au dehors, moi je préfère attendre la mort.
Je suis dans un trip chômeur, pas de femme, pas de. Je rappe mal, pas de maille, mais j'en kiffe l'odeur. Un genre de film d'horreur, bas de gamme, plat time. J'aurais dû avoir mon bac, mais je ne côtoie que Jack Dan. Je suis un bi, car je cultive un amour pour la flemme. Et je subis la surprise quand la tournée m'appelle. Tant de plans fébriles, parfois je fais même semblant d'écrire. Juste petit ce minus, sans grand défi.
Hey. Eh hey, je sais que t'es fatigué mon vieux, mais ouais, là il reste des mesures, okay. Alors dépêche-toi.
Je passe le plus clair de mon temps à me toucher la verre. Le business dure de 1000 mètres, viens de bouler la flemme.
Je rappe dans les hurles, trappant des pures sensations. Grattant les murs ou graffant les murs en station. Sans transition, je fiche, je dois foncer sérieux, fermer bail. Mais foncer les yeux cernés, je baille et sans grande mission. Je chill sur les trottoirs de la rue, du boulevard, de l'avenue. Je passe en place en matrace, tout part de ma venue. Mais j'ai souvent la flemme et pas le temps pour elle. Ça m'arrive tout le temps la semaine, mais j'ai le battement pour elle. Je dois dire mon blaze et tenir mon phrase et souple. J'ai la flemme de travailler, de batailler et puis de me raser le bouc. Je préfère tes gras une barrette shit, mais j'ai même la flemme d'aller pécho du bédo. Donc je déclare une garette si chaque fois juste me chahute. Mais parfois je triche et je dors. Et je me dis que j'ai tort plus souvent depuis que Pritch est mort. Alors je pousse mon truc, mon label et mes projets pour décrocher de la maille à l'appel et des trous.
J'ai la flemme. La flemme, la flemme.
Viens on sort.
J'ai la flemme.
Contre la fatigue et pour tous les lessivés, vannés, vidés, claqués, la langue française offre son lot de mots et de synonymes sur le sujet. Bref, pour tous ceux qui se sentent fatigués, pourquoi pas un bon café, remède miracle pour certains. C'est l'une des entrées de votre dictionnaire de la fatigue, Philippe Xavier Dja. Un article certainement écrit une tasse à la main par la psychanalyste Michèle Moreau-Rico, éperdue de caféine.
J'aime prendre le café au café à cause de ces machines à pression. Et ces grains de café, j'ai dû savoir un peu d'où ils venaient. Et une de mes plus grandes surprises quand je suis arrivée à Paris et que je fréquentais justement le jardin des plantes, c'était de demander aux jardiniers qui étaient là où étaient les caféiers. Je savais qu'il y avait des caféiers. Et j'ai vu cette petite cerise rouge magnifique. Et ensuite, j'ai cherché pour cet article d'où il venait, du Yémen, etc. Je me suis intéressée à plein de choses. Et on sait que par le Yémen, par la Turquie, et comme les Turcs ont envahi un grand bout de l'Europe jusqu'à Vienne, le terme café, d'ailleurs, c'est intéressant. C'est d'abord un grain, un breuvage, puis c'est devenu la maison café. Il y avait ces fameux cafés Haz, maison du café. Il suffit d'aller au petit matin dans les cafés de votre coin et on voit que tout le monde commente, discute, fait des plans sur la comète politique. C'est amusant. Et puis, effectivement, ça a donné comme une littérature. Maintenant, de façon très moderne, il y a la pause café. Mais la pause café, c'est un moment important autour de la machine à café en général, et c'est un moment de détente. Mais c'est vrai que c'est aussi un rituel. Tu viens prendre un café. Ce qui m'étonne, c'est que de plus en plus, je vois des gens avec leur ordinateur portable. C'est le bureau au café. Dans le nord, par exemple, de la France, les femmes buvaient du café sans arrêt toute la journée. Il y avait de véritables ivresses, mais des ivresses caféiques. Mais la médecine, enfin les traités indiquent que c'est un stimulant, des quantités de vertus que j'ai énumérées, je crois. Enfin, ça réchauffe, c'est bon. Le petit noir, le petit café expresso.
Michel Moreau-Rico, psychanalyste et amoureuse de café, on vient de l'entendre. Philippe Zavieja, pourquoi avoir souhaité faire une place à cette boisson et à cet endroit, hein, au café, dans votre dictionnaire ?
Alors, c'est pas comme ça que j'envisageais les choses quand Michel m'a dit « je vais faire l'entrée café ». Je l'avais inséré dans la liste des prévisionnelles des entrées, pensant la confier plutôt à un pharmacologue qui nous aurait expliqué comment la caféine interférait avec le cerveau humain. Et puis Michel m'a surpris, et Michel est allé beaucoup plus loin que ce que je voulais faire avec cette entrée. Alors il faut le remercier.
En parlant donc du café, hein, pour lutter contre la fatigue en tant que boisson et en tant qu'endroit, vous parlez également dans votre dictionnaire de fatigue culturelle, qui existerait sous deux formes. Et la première serait fortement liée à la colonisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, fatigue culturelle ?
C'est un terme qu'on a initialement appliqué au début du 19e à l'île d'Hawaï. Qui a la particularité, à l'occasion d'un changement de monarque, puisque c'était une société traditionnelle, d'avoir, en 1819, d'elle-même laissé tomber sa religion traditionnelle, qui était une religion, on va dire, animiste, pour embrasser la foi chrétienne, alors qu'elle n'avait pas encore reçu la visite de prêtres pour l'évangéliser.
Donc,
c'est ça, de missionnaires. Les seuls contacts étaient épisodiques avec des marchands, parfois quelques soldats, mais pas de prêtres. Et puis, cette expression de fatigue culturelle, elle a été reprise dans d'autres contextes, notamment au Québec, qui vit en permanence dans cette situation délicate, qu'il est le seul à savoir vivre de par le monde, où on doit vivre avec une langue très dominante, écrasante, qui est l'anglais, tout en revendiquant une identité francophone extrêmement riche et extrêmement présente.
Le Québec a refusé par deux fois de devenir un pays indépendant dans deux référendums en 80 et 95. En fait, cette fatigue culturelle, c'est un mécanisme par lequel une communauté colonisée va renier d'elle-même sa propre culture au profit du colonisateur. C'est une fatigue en fait de son identité, de soi-même.
Oui, qui peut être une fatigue, elle aussi socialement construite, ce besoin de faire communauté avec le colonisateur, alors qu'on nous le demande pas forcément. C'est un peu une sorte de syndrome de Stockholm, j'ai envie de dire, comme une victime ferait corps avec son bourreau, en allant même au-delà de ses désirs.
Autour de la question « Pourquoi tant de fatigue ? Quelles nouvelles fatigues apparaissent dans nos sociétés ? Peut-on se fatiguer soi-même » Philippe Lavieja, la journaliste scientifique Cécile Lestienne, a une question à vous poser.
On parle depuis quelques années de la fatigue d'être soi. Est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion-là ? Est-ce que c'est pas lié justement à la liberté qu'effectivement nous avons gagnée, je pense en tout cas dans nos sociétés depuis quelques années ? Nous avons le droit de choisir notre métier, notre conjoint, l'endroit où on vit et là où on part en vacances. Et on le paye aussi par la responsabilité qui nous échoue et dont avant on pouvait se dispenser.
Philippe Zavieja, votre réponse, la liberté nous fatigue ?
Oui. La fatigue d'être soi, c'est un concept qui a été mis en avant par Alain Ehrenberg dans un ouvrage qui s'appelle « La fatigue d'être soi » il y a une dizaine d'années, et qui, plus que la liberté, incrimine cette injonction qui nous est faite en permanence de nous réaliser dans toutes les sphères de notre vie. On est à nouveau dans ce discours de la performance qu'on évoquait en début d'entretien, quand on comparait l'humain et la machine. Là, il s'agit d'être soi, de se forger une identité spécifique, forte et très différenciatrice tout au long de notre vie, en tant que travailleur, en tant qu'homme ou femme, en tant que père ou mère, en tant que fils ou fille, etc., etc. Et ça, c'est forcément épuisant. Nous avons une multiplicité de rôles sociaux dans toute vie humaine. dans lesquelles il faut que nous soyons toujours au top.
Et ça, c'est quelque chose qui est relativement récent, cette liberté qui nous force, qui nous fatigue.
Oui, parce que elle procède d'un mouvement individualiste, et l'individualisme a ce grand désavantage de nous laisser totalement isolés dans la conduite de nos vies. J'y oppose ces sociétés plus traditionnelles qu'on a connues, dans lesquelles les cadres sociaux nous portaient beaucoup lorsque nous étions portés par une morale d'ordre religieux ou sociale, on avait moins besoin de réfléchir. C'est-à-dire qu'on entrait dans des moules préfabriqués et c'est en respectant ces moules qu'on se réalisait. Mmh. On était un bon père de famille, on était un bon enfant, parce qu'il y avait des critères sociaux. Il y en a moins.
D'où cette fatigue peut-être d'un ordre nouveau, de la neurasthénie hein, au burn-out, au bore-out, à la mélancolie. Qu'y a-t-il de commun à toutes ces fatigues ?
La souffrance psychique, l'inconfort psychique, et des causes sociales qui se cristallisent dans des corps individualisés.
Et ce sentiment de ne plus pouvoir continuer dans l'état.
Alors ça, c'est la définition même de la fatigue, c'est cette impression qu'on est allé au bout de ses ressources et qu'on ne peut plus continuer comme ça, et qu'il faut qu'on s'arrête.
Et ça, c'est commun à toutes les fatigues.
Ça, c'est commun à toutes les fatigues.
On retrouve dans votre dictionnaire de la fatigue. Et quelles questions restent ouvertes aujourd'hui sur la fatigue ? Qu'est-ce que vous aimeriez étudier aujourd'hui, Philippe Zavieja ?
Des centaines de choses. J'aimerais savoir, par exemple, ce qu'en disent les sociétés traditionnelles dans d'autres continents que les nôtres, où la religion et la médecine sont infiniment plus intriquées, donc en clair des sociétés animistes, où souvent les symptômes de fatigue sont attribués à des êtres plus ou moins surnaturels et plus ou moins malfaisants qui nous pompent notre fluide vital. Et j'aimerais savoir...
La fatigue est presque personnifiée en fait.
Elle n'est pas personnifiée en ce sens qu'il n'y a pas toujours une divinité de la fatigue, mais on est bien dans l'interaction avec le reste de l'univers, une espèce de cosmologie qu'on a un peu perdue, on a franchement même perdue dans notre civilisation actuelle. Et j'ai tendance à penser quand même que ces réflexes-là sont toujours présents dans notre substrat culturel. J'en veux pour preuve ces éléments de langage que vous rappeliez, que je rapprocherais volontiers du vampirisme. On est pompé. On est vidé, on est crevé, tout ça, et on pourrait parfaitement dire que c'est un djinn, un génie, une divinité, un démon qui se balade à proximité de nous et qui nous a pris quelque chose.
D'où l'intérêt de se pencher sur les perceptions de la fatigue ici et ailleurs. Merci infiniment Philippe Zavieja d'être venu dans notre studio, de nous avoir ouvert les yeux sur un sentiment, une émotion, un état de notre vie quotidienne. Je rappelle que vous publiez un dictionnaire de la fatigue aux éditions Drose, 860 pages tout de même, dont on sort plus grandi qu'Avachi. Merci beaucoup et peut-être à bientôt.
Merci
pour
à vous.
Prochain dictionnaire, qui sait ? Vous revenez quand vous voulez. À l'équipe de l'émission, Caroline Fillette en coulisses et Apolline Verlon-Raison à la réalisation. Demain, autour de la question, nous parlerons du carbone sous toutes ses formes, charbon, diamant ou graphite. Le carbone est bien plus qu'un simple élément chimique et ses multiples vies nous invitent à repenser la nôtre. À demain.